Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large avec aujourd'hui, c'est le hasard de l'actualité et de la programmation, une coloration très musicale. D'abord, notre info média va poser sur la platine Gainsbourg, toute une vie. C'est un documentaire et non pas un album, documentaire passionnant de France 3. Ses réalisateurs Stéphane Benhamou et Sylvain Bergère répondront à cette question. Que peut-on encore apprendre sur Gainsbourg qu'on s'y avait déjà, car ils y parviennent, leur réponse des inédits. Nos invités ensuite, l'animatrice Cécile Djunga et le tatoueur Martils incarnent Tattoo Cover, dont la troisième saison a démarré sur TFX. L'idée de l'émission, c'est recouvrir par un tatouage un autre tatouage très gênant. Exemple, un prénom à l'entrée des fesses ou alors l'émoji marron en forme de crotte. Je n'invente rien. Enfin, François Ravard, manager historique de Téléphone, mais il a également beaucoup travaillé avec les Rita Mitsouko, Gainsbourg ou Marianne Faithfull. Il publie Rappel, c'est sous-titré Mémoire d'un manager, livre de souvenirs sans filtre. En prime, il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous avez des tatouages ?
Non, aucun. Et certainement pas de petites crottes.
Même question Antoine Janton, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je ne dirai rien.
Voilà. Ça veut dire qu'il en a. Moi, pas de tatouage. Au sommaire, on parle pas de vos tatouages Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Une nouvelle émission d'aventure, une nouvelle émission politique et un nouveau départ chez Canal+.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard. Qu'ont regardé les Français hier soir ?
Eh bien, comme la semaine dernière, un TF1 est leader avec les derniers épisodes de la série italienne Doc. C'est dans sa très bonne moyenne, hein, 3 880 000 téléspectateurs, 18,4% de part d'audience. Ensuite, c'est M6 Top Chef hein, qui était à sa troisième semaine, qui se maintient à un bon niveau, 3 340 000 téléspectateurs, 16,4% de part d'audience. Et ensuite, France 2 baisse avec sa nouvelle série La Faute à Rousseau, la philosophie en série, hein, 2 550 000 téléspectateurs, 11,4% de part d'audience.
Culture Média.
Le journal des médias, donc avec vous Antoine Janton à la une, une nouvelle émission en préparation avec un ancien candidat de Koh-Lanta.
Claude, c'est le nom de ce candidat, vous le connaissez peut-être, Claude
ouais.
D'Artois,
oui.
Candidat,
le chouchou.
Candidat combatif, charismatique, qui a déjà participé 3 fois au jeu d'aventure de TF1, sans jamais toutefois remporter la finale. Vous le disiez, Philippe, il est devenu le chouchou du public, notamment depuis la dernière saison du programme, elle a été diffusée pendant le premier confinement, chouchou. Donc, et cela n'a pas échappé à la productrice du jeu, forcément, Alexia Laroche-Joubert. Elle travaille sur un projet d'émission avec lui, un programme de dépassement de soi et de dépaysement, selon les mots qu'elle utilise, c'est ce qu'elle a dit au journal belge Télépro. Cela dit, l'émission n'est pas près d'arriver à l'antenne, hein, la faute notamment à la crise sanitaire, car le tournage doit avoir lieu à l'étranger, ce qui est plutôt compliqué en ce moment.
Et on en avait parlé hier, c'était la première sur Twitch, hier soir, pour Gabriel Attal.
Premier live pour le porte-parole du gouvernement, retransmis également sur YouTube, et premier petit accro dès le tout début de l'émission.
Ici, réunis à l'Élysée, en direct sur Twitch et sur YouTube, avec des invités, Élise, Fabian, Julia, Malek et Marie, Enjoy Phoenix, pour ceux qui la connaissent, c'est-à-dire beaucoup de monde.
Voilà le bonsoir de Gabriel Attal qui a été mangé par le générique. Ça arrive, il y a encore quelques réglages. 5 invités donc autour de lui, tous sans masque mais installés à bonne distance les uns des autres dans un grand salon d'une annexe de l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement a répondu à leurs questions pendant 1h30 environ. Hashtag sans filtre, hein, c'est le titre de cette émission. Elle a été regardée en partie ou en totalité par 200 000 personnes. C'est le chiffre en tout cas donné par Gabriel Attal lui-même sur Twitter. BFM TV parle d'une moyenne de 8 000 viewers sur Twitch, ce qui est plutôt pas mal pour une première prochaine émission dans un mois.
Sans filtre que Bertrand Chameroy avait regardé hier et son débrief à suivre dans une petite heure, ça sera juste après 10h. Et puis tout à fait autre chose, un nouveau départ chez Canal+.
Celui de la journaliste Marie Portolano, direction M6, selon le site du journal Le Parisien. Elle devrait passer à l'animation et co-présenter Le Grand Cactus, l'adaptation d'un talk show humoristique belge. Mais plus de sport pour elle, cela fait 6 ans et demi qu'elle en parle sur la chaîne cryptée. Elle y présente notamment le Canal Sport Club, après avoir été chroniqueuse dans le Canal Football Club. Marie Portolano part avant de se faire virer, explique l'un de ses proches aux Parisiens. Selon lui, la direction de Canal l'aurait dans le viseur depuis qu'elle a signé avec une centaine d'autres journalistes, techniciens, consultants, un texte de soutien à l'humoriste Sébastien Thoen. Il avait été licencié, je vous le rappelle, de Canal+, après une parodie d'une émission de CNews, CNews qui appartient au même groupe.
Le focus programme du jour, c'est l'un des reportages proposés dans l'émission Envoyé spécial ce soir sur France 2.
La nouvelle vie de Stella et Alex, 2 enfants transgenres. Stella, petite fille de 8 ans, née dans un corps de garçon, garçon et Alex, jeune homme de 17 ans, né lui dans un corps de fille. Deux âges qui permettent d'aborder des questions différentes. Questions sociales pour Stella, comment faire en sorte que l'école l'accepte en tant que fille, comment réagissent ses camarades de classe et comment changer d'état civil. Les questions médicales viendront plus tard, à l'âge d'Alex notamment, qui lui est donc adolescent, dans la fin de l'adolescence. Il s'injecte des hormones, de la testostérone et a recours à une opération d'ablation de la poitrine. Tous deux ont un point commun, le soutien apporté par leurs familles respectives qui les accompagnent dans leur transition. Une situation et des témoignages plutôt rares, selon le réalisateur du reportage, Naoufel El Haouifi.
Trop souvent, quand on parle de transidentité ou de personnes transsexuelles, c'est vrai qu'on le voit avec le prisme des personnes avec qui ça se passe mal, malgré le fait que ce soit un portrait croisé de deux enfants dont la famille a très bien accepté la transidentité et cette transition. Malgré tout, c'est pas la généralité. Malheureusement, dans la majeure partie des cas, ça se passe pas très bien. Le taux de suicide, il est 7 fois plus important que la moyenne pour les personnes transgenres.
Stella et Alex, Naoufel El Haouifi les a suivis pendant des semaines, un temps long qui permet de mieux comprendre comment peut se passer la transition d'enfants transgenres. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu les familles de se laisser filmer.
Au moment de la transition de leur enfant, ils étaient tellement perdus. Il y avait tellement peu de repères ou peu de personnes qu'on a entendues dans les médias pour qui ça s'est passé, qu'eux avaient besoin aussi d'une certaine manière de s'exprimer pour montrer l'exemple, pour montrer que parfois ça se passe bien, voire très bien, et qu'on vit bien la transition, la transidentité, elle ne se fait pas que dans le prisme du rejet, mais parfois de l'acceptation. Et je pense que c'était ça que les familles avaient envie de montrer.
La nouvelle vie de Stella et Alex est à voir ce soir dans Envoyé spécial à 21h avec deux autres reportages au programme. Une enquête sur l'isolation des maisons et un sujet d'actualité, le portrait du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny.
C'est nous qui sommes Lucky, les Daft Punk, à l'honneur ce soir sur Culture Box.
Soirée spéciale sur la nouvelle chaîne culturelle de France Télévisions. De quoi consoler un peu hein, les, ouais, fans de l'annonce de la séparation du duo. C'était lundi. Au programme, la diffusion du premier et du seul documentaire réalisé sur ce groupe, ce duo mythique, Daft Punk Unchained. C'était la BBC qui s'en était chargée avec images d'époque et témoignages inédits sur leur histoire. Et juste avant, Daphné Burki et Raphaël Yem recevront le réalisateur Hervé Martin Delpierre. L'émission se finira d'ailleurs en musique avec la version live de la chanson Harder, Better, Faster, Stronger, extrait de Live 2007, hein, qui est un concert, un disque sur d'un des concerts du duo. Pour rappel, Culture Box sur le canal 19 de la TNT, début de cette soirée spéciale à 20h10.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard, autre duo mythique. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias sans casque. Ah si, ils ont un casque en plus, à suivre.
À demain.
Dans notre info média du jour, un portrait inédit de Serge Gainsbourg à l'occasion des 30 ans de sa disparition. Imaginez avec la complicité de Jane Birkin et de Charlotte Gainsbourg. Nous serons avec les réalisateurs du documentaire, Sylvain Bergère et Stéphane Benhamou. A tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
On va parler de l'un des chanteurs et artistes français les plus marquants, les plus influents du XXe siècle, Serge Gainsbourg, qui s'éteignait il y a 30 ans, le 2 mars 91 précisément. Les hommages sont évidemment nombreux, journée spéciale sur Europe 1 mardi prochain, on aura l'occasion d'en reparler sur France 3, demain avec un formidable documentaire qui retrace toute la vie de l'artiste avec des archives inédites et les témoignages de ses proches. Bonjour Stéphane Benhamou.
Bonjour.
Avec vous Sylvain Bergère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les réalisateurs de ce documentaire « Gainsbourg, toute une vie » diffusé demain soir sur France 3. C'est avec, on reconnaît l'intro très beau, très souvent pardon, samplé, c'est avec ce Requiem pour un con que s'ouvre votre film. C'est pas le premier documentaire sur Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qu'il a de singulier, Sylvain Bergère ?
Ce qu'il a de singulier, c'est que c'est Lucien Ginsburg, c'est Serge Gainsbourg, mais c'est pas Gainsbourg. On a, avec l'angle qu'on a choisi avec Stéphane, et puis qu'on a monté avec Erwan Le Gac quand même. Voilà. Donc c'est...
En gros, c'est son enfance, sa vie, mais pas la fin tragique.
Voilà.
Il y a la fin tragique, parce que ça fait partie de lui, mais c'est une mise en scène, Gainsbourg. Et ce n'est pas vraiment lui. Et ce qu'on voulait, c'était un portrait intime, au plus près du Gainsbourg que nous, on a toujours aimé, qu'on a vu s'abîmer, comme ses proches l'ont vu s'abîmer dans toutes ces années 80, où on le croisait souvent, assez facilement. Mais on voulait retrouver l'émotion qu'on voyait dans ses yeux, la gentillesse qu'il avait et cette pudeur, même quand il était Gainsbourg, une fois les caméras branchées, nous on l'avait vu autrement, on avait envie de le retrouver comme ça. Et on l'a retrouvé comme ça au tout départ, au tout début, c'est grâce à des archives inédites. On s'est dit, c'est 17 minutes là de qu'Yves Lefebvre nous proposait de nous confier. On s'est dit, c'est un matériau extraordinaire. Il a 40 ans. À ce moment-là, il est d'une beauté incroyable. C'est ce qui nous a frappé. C'est des gros plans de lui. Tout. On s'est dit,
je souris parce que maintenant on dit qu'il est d'une beauté incroyable, mais à l'époque il était très complexé parce qu'il se trouvait laid. Je pense justement à la chanson La beauté des laits, où ce fut son complexe pendant des années et des années.
Et puis des archives de Gilles Verlan. Parce qu'il a beaucoup enregistré, c'était son biographe officiel, et il a beaucoup enregistré. Et donc on avait on était vraiment dans l'intimité de Serge. Grâce à ces enregistrements, qui ne sont pas de très bonne qualité, mais bon, avec maintenant, on peut arranger. Et ça, c'était. Et puis après, on a fait aussi un inédit de chansons, quand même, sa première chanson.
On va écouter tout ça. Déflorez pas tout. Tiens, je vais saluer la mémoire de Gilles Verlan. Le documentaire déroule la vie de Serge Gainsbourg, de sa naissance en 1928 à sa mort, je l'ai dit, le 2 mars 91. Ce doc est chronologique, enfin presque chronologique. Les initiales bébé, c'est évidemment celle de Brigitte Bardot et c'est par sa courte relation avec Bardot, 3 mois, fin 67, que le récit commence. Pourquoi avoir fait ce choix, Stéphane Benhamou ?
Parce que justement, il a 40 ans, il va avoir 40 ans, il a toujours pris en pleine gueule sa laideur, c'est-à-dire qu'il raconte dans les extraits audio qu'on a dans le film, il dit, mais j'entendais les gens dire, mais qu'est-ce qu'il est laid, c'est pas possible, comment on peut monter sur scène comme ça, se présenter aux gens. Il y avait même le journal Art, qui était pourtant un journal de qualité, même si c'était quand même très orienté, où écrivait François Truffaut, qui dit, on a trouvé plus laid que Philippe Clé. Et donc, il avait tout
Pardon pour la famille de Philippe Clé.
Et donc, il avait ce poids-là et cette laideur qui l'accompagnait. Et à 40 ans, il est devenu ce dandy, cet homme qui séduit les femmes et qui séduit la plus belle femme du monde.
Philippe Clé, chanteur et comédien très célèbre dans les années 50-60. L'idylle qu'ont vécu Gainsbourg et Bardot, l'actrice l'a raconté dans ses mémoires. Et on entend d'ailleurs quelques extraits dans le documentaire. Ils sont lus. C'est Brigitte Bardot qui les lit, Sylvain Berger.
Non, c'est une comédienne. C'est une comédienne parce que Brigitte Bardot ne pouvait pas...
Mais attendez, c'est une comédienne, mais c'est un sosie vocal.
Oui, elle a fait un spectacle. Un spectacle sur Brigitte Bardot pendant 2 ans, qui a tourné et qui a eu du succès. Mmh. Et qui était aussi qui est devenue une amie de Brigitte Bardot. Et d'ailleurs, le jour de l'enregistrement, c'était assez curieux parce qu'elle l'appelait. Et c'est elle d'ailleurs qui nous a dit, mais prenez cette jeune fille, elle est formidable. Et là, je suis désolé
Mathilde
parce que
Bisson,
voilà, merci. Je ne sais plus son nom.
Et puis, on a entendu le refrain d'Initial Bibi, chanson que Gainsbourg compose après leur rupture. Un travail de composition dont vous avez des images inédites. On est à la radio, on ne peut pas les diffuser. Racontez-les. Que voit-on, Stéphane Benhamou ?
On le voit travailler ce morceau de Dvorak, Symphonie du Nouveau Monde, enfin ce thème. Et comment il développe ça avec son directeur artistique anglais, comment il pianote ça
en studio,
tout doucement.
C'est génial.
Alors, chez lui, au studio Cité des Arts, et après en studio à Londres. Et c'est toute la progression. Et puis, c'est vraiment... Moi, j'adore ce passage. Ça me fait penser à un super film qu'il y a eu sur les Beach Boys, où on voit comment a été enregistré Pet Sounds.
Pet Shop Boys, c'est un groupe des années 80.
C'est ça, je suis un peu marqué par les années 80.
Pet Sounds, c'est le grand album mythique des Beach Boys.
Ouais. Et c'est cette progression dans son travail et son sourire, d'être aussi près de lui au moment de la création qui est assez génial.
Il y a d'autres images inédites, d'autres séquences inédites de Gainsbourg, tournées à la Cité des Arts où il a vécu pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut y voir, Sylvain Berger, raconter ?
De plus, en, en inédit, bah, une chanson de la première, il a écrit une chanson, une de ses premières, avec pour sa première femme, Elisabeth Levinsky.
Et mais avant la chanson qu'on va entendre, mais sur la Cité des Arts, ce qu'on voit.
Sur la Cité des Arts, bah,
il écrit, on le voit écrire Benjamin. À la plume, on le voit aujourd'hui au moment de l'écriture inclusive. On voit que lui ne met pas la barre d'été parce qu'il ne veut pas être interrompu dans son écriture, dans son flux. Alors, pas, il ne va pas mettre E.S.
Pas d'accent, machin, pas d'accent.
Voilà, c'est cette écriture qui est assez incroyable. Et on le voit écrire exactement les paroles qu'il va chanter après.
Et puis, il y a un inédit, cette chanson, elle s'appelle « Nul ne saura jamais ».
Nul ne saura jamais. Une chanson pour Elisabeth restée inédite, enregistrée ici pour la première fois.
Qui de deux aime l'autre le mieux, nul ne le saura jamais. Non, nul ne saura jamais lequel des deux était le plus heureux. Qui de nous deux trouve plus merveilleux ces doux instants.
Inédit, cette chanson, on a reconnu la voix off chatoyante de Romain Duris. Nul ne saura jamais, c'est une chanson écrite pour sa première épouse, Elisabeth Levinsky. Un morceau, c'est un vrai faux inédit, c'est un morceau que vous avez fait enregistrer.
Oui, parce qu'il est déposé à la SACEM.
C'est un morceau que donc c'est, la voix, c'est Muriel Combeau, une comédienne que je connais bien, et le musicien le musicien qui a refait la musique, c'est Jérôme Denida. Et c'était effectivement de retrouver une partition de la SACEM qui était signée Julien Gris, pour Julien Sorel, et Gris parce que c'était sa belle famille, et aussi Gris pour le peintre, comme lui il aurait voulu être peintre, voilà.
Alors là, on est au milieu des années 50. Gainsbourg, qui s'appelle encore Lucien Ginsburg, vit de petits boulots. Il est prof de chant, prof de dessin également, parce que son activité principale, c'est la peinture. Vous venez de le dire, Sylvain Bergère. Il écrit ses chansons presque en cachette. Est-ce que celle qu'on vient d'entendre, ça fait partie de celle qu'il écrivait dans un petit carnet, comme ce que raconte sa première femme?
Tout à fait. Tout à fait. C'était.
Oui, c'est ça. Il écrivait en cachette alors qu'elle lui reprochait de ne pas assez peindre, pas assez travailler. Ils étaient tous les deux moniteurs dans un centre aéré pour enfants rescapés de la Shoah. Et lui, il s'est découvert animateur, et le plaisir d'être avec les enfants, de les amuser et de chanter pour eux. Et c'est la première fois où il a chanté en public.
Et comment Gainsbourg se lance dans la chanson? On voit ça dans le documentaire Stéphane Benhamou, Sylvain Bergère. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
On le découvre dans ce documentaire, Gainsbourg tue toute une vie, demain soir 21h sur France 3 à l'occasion des 30 ans de la mort de l'artiste. Il était peintre, il était pianiste, il était prof de peinture et il écrivait des chansons en cachette, nous apprenez-vous. Il n'ose pas se lancer lui-même dans la chanson, enfin lui-même au micro, mais Gainsbourg finit par avoir un déclic un soir de 57. Il est dans un cabaret, il est engagé comme pianiste dans le cabaret, Sylvain Bergère.
Non, il est engagé comme guitariste en fait.
Voilà, ça aussi j'ignorais, je suis content que ce soit vous qui le
disiez. C'est un gitan qui lui a appris la guitare.
Miller Larsouille, le cabaret, et finit par avoir un déclic dans ce cabaret. Gainsbourg, on est un soir de 57, il voit chanter Boris Vian, et voilà ce qui se passe.
Un jour est venu Boris Vian, qui a présenté un tour de chant absolument malsain, une présence malsaine, mais fantastique, halluciné.
Je bois pour ne plus voir ma gueule.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme.
Et quand j'ai entendu Vian chanter une grande pointure, je me suis dit, merde, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, quand même. C'est intelligent, c'est pas un art mineur. Et là, je me suis mis à écrire. C'est Vian qui m'a motivé.
J'adorais les petits clics qu'on entend, c'est Gainsbourg qui, avec son zippo, qui s'allume une clope. L'histoire va même plus loin, puisque c'est Vian qui va écrire l'un des premiers articles sur Serge Gainsbourg. C'est en 58 pour dire « Allez acheter son album », en l'occurrence son premier « Du chant à la une ». Alors, les débuts de Gainsbourg n'ont pas été simples. Le succès n'a pas été immédiat, succès d'estime tout au plus. Quand est-ce que Gainsbourg commence à avoir du succès, Stéphane Benhamou?
Ça explose vraiment avec l'Eurovision, avec France Gall à l'Eurovision. Poupée de cire, poupée de son. Ouais. L'année d'avant, il doutait même de pouvoir continuer. Il avait même des idées suicidaires. Il a avoué plus tard.
Parce que c'est l'eau à la bouche à un moment, peut-être.
Oui, il y a eu l'eau à la bouche, parce que c'est vrai que c'était la chanson du film, l'eau à la bouche de Daniel Valcroze. Et qu'il y a eu un succès là, mais qui n'a pas été. Sans lendemain. On connaît tous Le Poinçonneur des Lilas, mais ça n'a pas marché. Et toutes les chansons, tous les albums qui suivent ne marchent pas, y compris la chanson de Prévert. Quoi. Mmh.
Une chose qu'on ne connaît pas d'ailleurs sur ça, c'est qu'en fait, l'argent, il en faisait un petit peu grâce à ses films de gladiateurs, là, ses péplums, et aussi pour la radio. Dans la radio, j'ai retrouvé comme ça une pièce de Bertolt Brecht où il joue dedans et il gagnait plus d'argent avec ça qu'avec ses disques.
Alors, c'est pas facile de parler de toute la carrière de Serge Gainsbourg puisque vous parliez de France Gall. Vous ne parlez pas dans le doc de plusieurs chansons, notamment les Sucettes, chansons qui, faut-il le rappeler, évoquent la fellation, ce qui a fait scandale quand on avait découvert ça. D'autant plus que France Gall à l'époque n'avait pas conscience de ce double sens. Pourquoi cet oubli volontaire?
Alors, deux raisons. C'est la première, c'est que on avait peu de temps, en fait, sans disque. Et donc, il a fallu faire des coupes. Et ça, tout le monde connaissait l'histoire. C'était un peu. On a évité la javanaise aussi, comme un monument. Et donc, il fallait faire des choix. Et c'était intéressant de montrer des chansons qu'on ne connaissait pas. Mmh. Et après, il y a d'autres chansons qu'on ne pouvait pas passer à côté. Quoi. Après,
Vous parlez en revanche d'une autre chanson qui a fait scandale à sa sortie en 87, Lemon Incest, duo avec sa fille. 85, pardon, Lemon Incest, duo avec sa fille qui avait alors 14 ans, Charlotte Gainsbourg, qui revient sur ce morceau dans le documentaire.
Je sais que le texte m'a pas choquée, je comprenais la provocation évidemment, mais ça m'a pas troublée. Je me sentais pas avoir été mise en difficulté.
L'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus rare et le plus troublant. Phrase très dangereuse, très dangereuse, très dangereuse.
L'amour que nous ne ferons jamais ensemble, c'était très clair et c'était une vraie chanson d'amour entre un père et sa fille. Aujourd'hui, je peux pas rêver mieux. Comme témoignage.
Elle a aussi dit en 2019, Charlotte Gainsbourg, aujourd'hui, mon père serait condamné par l'opinion publique à chacun de ses mouvements. Est-ce que Gainsbourg est devenu problématique? C'est ce que se demandent les Inrock dans leur dernier numéro, Stéphane Benhamou.
Moi, je trouve pas. C'est sa fille qui, combien d'années après, nous dit que ça ne lui pose aucun problème. Ça n'a pas posé de problème à l'époque, ça ne lui pose aucun problème aujourd'hui, qu'il n'y a eu aucune ambiguïté. Alors, il y a une dose de provocation. Il jouait avec la provocation.
Lui-même, il dit que c'est très dangereux. Il dit que c'est très dangereux. Ce texte lui-même, il se rend compte que c'est un brûlot.
Oui. Et en même temps, il essaye d'aller le plus loin dans ce qu'on peut dire de ce qu'on peut déclarer comme amour paternel, en enlevant toute ambiguïté d'inceste ou Donc, alors, il y a le mot dans Lemon Incest, évidemment, qui est là, mais c'est pour l'éloigner, pour vraiment le.
Ouais. Puis c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il joue avec les mots. Ouais. Lemon Incest, pour lui, c'était parfait comme jeu de mots. Ouais. Et donc, il l'a fait. Et puis, en plus, il aimait provoquer. Mais il y avait aucune ambiguïté. Enfin, pas pour les gens, puisque les gens... Moi-même, j'étais choqué. C'est en faisant le film que j'ai appris qu'en fait, pas du tout...
C'est très intéressant ce que vous dites. Vous-même, vous étiez choqué. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Mais il y a une jeune génération qui est choquée.
Ben oui, mais parce qu'ils connaissent...
D'où le papier des Inrock.
Parce qu'ils connaissent pas assez le monsieur Gainsbourg. Parce que Gainsbourg, c'est quelqu'un qui aimait sa fille plus que tout. C'est ce qu'il dit dans la chanson. Mais comme... Moi, j'ai trois filles, je les aime plus que tout. Et c'est pour ça, il n'y a aucune ambiguïté.
Mais après, vous n'écrivez pas une chanson dans laquelle vous dites l'amour que nous ne ferons pas ensemble.
Parce que
quand on écrit, c'est ce qu'on appelle la prétérition. Quand on écrit quelque chose en disant qu'on ne le fait pas, on vient de l'écrire.
Oui. Mais lui, c'était le côté provocation, comme il provoquait dans les années 50.
Et je vais poser la question un peu différemment en faisant un pas de côté. On n'est pas. Ici, on est dans Culture Média et on est dans la séquence Média. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Gainsbourg, mais il y a aussi la télévision. Est-ce que France 3 vous a fait des remarques sur la manière que vous alliez avoir de présenter Serge Gainsbourg au public de 2011?
Non, aucune remarque.
2021.
Non, aucune remarque. On sortait du film de Vian, sur Vian. Mm-hmm. Et là, Emmanuel Mijot est venu vers nous de France Télévisions. Il nous a dit... Et vous allez nous faire votre Gainsbourg, là, parce que ça faisait un moment qu'on avait ces inédits, et en toute liberté. On a pu travailler totalement librement et aucune censure là-dessus.
Les Un Rock encore donnent la parole à plusieurs artistes contemporains. Ils demandent ce qu'ils pensent de Gainsbourg. Un musicien futuriste pour Biolay, un esprit punk avant le punk pour Molko de Placebo. Il incarnait une laideur très belle, dit Alex Copranos de Franz Ferdinand. Des avis variés, résumés par Chili Gonzalez, le pianiste canadien foufou. J'ai l'impression qu'on peut tout trouver chez Gainsbourg. C'est le Jésus musical de la France. Vous êtes d'accord avec cette formule? Vos rires prouvent que vous n'êtes pas totalement opposé à cette formule.
Non, et punk, c'est évident. Enfin, quand
punk avant le punk.
Rock de bunker, on est en 75, on est deux ans avant le punk, ou enfin un an et demi avant le punk. Et puis,
il a fait nazi rock aussi.
Et oui, c'est
dans cet album. Même la Tatatatun, c'est quand même une chanson.
Oui, Thibaut, mais... Il dit qu'il va aller prendre son flingue et qu'il va aller buter Darqué de Pellepoix en Espagne, qui était le commissaire général des questions juives, alors que personne n'en reparle à ce moment-là. Il est totalement punk, mais il est d'avant-garde régulièrement et à chaque époque. Ouais. Et en même temps, il s'est récupéré pour faire Feu de tout bois.
C'est
la Marseillaise, c'est ça.
Petite question. Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, qu'on entend dans ce doc, ont été difficiles à convaincre ou elles sont venues très vite et très spontanément? Parce qu'elles, leur parole est rare.
On ne peut pas dire qu'elles sont venues spontanément. Elles ont mis du temps avant de... Personne ne les a forcées et elles sont venues, mais avec une grande, grande générosité.
Oui. C'est vrai qu'on leur a écrit, on a beaucoup parlé et tout ça, et on leur a dit quelles étaient nos intentions. Et puis,
elles étaient plutôt. Non, parce que Jane Birkin, elle voulait dire moi, je ne veux pas être tout le temps la personne qui témoigne. Et si Charlotte vient, je viendrai. Et Charlotte, elle a accepté pour la première fois. En 30 ans, elle n'avait jamais témoigné. C'est la première
Exactement.
Fois. Et non seulement elle vient, et en plus, elle est. Super généreuse.
Séquence très émouvante. Je mets un S et un pluriel. Séquence très émouvante et en même temps très pudique. Merci beaucoup Stéphane Benhamou.
Merci Philippe. Que je
m'en veux. Merci beaucoup Sylvain Bergère. J'arrive pas à parler par-dessus.
Merci.
Gainsbourg, toute une vie. C'est demain soir à 21h05 sur France 3 à l'occasion des 30 ans de la mort du chanteur. Également, Europe va lui rendre un hommage. Ce sera mardi 2 mars, journée spéciale sur Europe 1 avec en fil rouge une programmation musicale dédiée, un habillage exceptionnel du carillon, des invités dans les rendez-vous d'infos, dont le 7h40 de Mathieu Béliard, et puis une émission spéciale de 20h à 22h, Gainsbourg Forever, avec la diffusion d'un documentaire tout sonore inédit, réalisé à partir des archives d'Europe 1. Je peux vous dire qu'il y en a, ça retrace la carrière de l'artiste. On en diffusera un extrait dès le lendemain dans le journal des médias. Merci encore, ce sera le matin évidemment. Dans un instant, focus sur une émission qui met à l'honneur tout à fait autre chose, l'art du tatouage. Ça s'appelle Tattoo Cover, sauveur de tatouage. Oh, ce son, on en parle avec l'animatrice Cécile Djunga, on y est, et le tatoueur Marty, c'est lui qu'on entend et qui arrive, à tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'est ça l'Europe, bonjour Cécile Djunga.
Bonjour.
Vous êtes humoriste.
Merci
vous êtes
de m'accueillir.
Merci d'être avec nous, vous êtes où exactement?
Alors là, je suis à Bruxelles, chez moi.
Car vous êtes humoriste, vous êtes humoriste, animatrice de télé à la télévision belge, les RTBF. Vous avez présenté la météo, mais on peut également vous voir dans la nouvelle émission de Michel Simès, Antidote, et dans C'est toujours pas sorcier. Également, on peut vous voir dans la troisième saison, parce que vous êtes le fil rouge de l'émission, de Tattoo Cover, sauveur de tatouage sur TFX. Avant de traduire le titre, j'accueille mon deuxième invité, c'est Marty. Marty ou Marty Early, comme on dit?
Marty ou Marty Early, comme on dit.
Marty, c'est votre nom de scène, vous êtes tatoueur professionnel, on vous voit donc dans Tattoo Cover. Je traduis, couverture de tatouage. Cécile Djunga, expliquez le principe de l'émission.
Alors, dans Tattoo Cover, des clients viennent avec un tatouage abîmé, qui n'aime plus, qui a mal vieilli, ou qui a été raté dès le départ, ou qui leur rappelle un mauvais souvenir. Et donc, ils viennent avec... un problème, et nous, on leur trouve la solution. C'est-à-dire que nos tatoueurs leur proposent un cover qui rentre dans ce qu'ils ont envie de réaliser. Et voilà, en gros, c'est ça.
D'accord. Qui sont les tatoueurs, à part Marty, en plus de lui?
Alors, il y a Marty Hurley, il y a Diego Mores, il y a Dodi, il y a Adrien et il y a Karina NG. C'est des virtuoses du tatouage, là, tous les cinq, qui sont incroyables.
Exemple de tatouage qu'on a envie de recouvrir. Moi, j'en revenais pas quand j'ai vu cette fille qui avait sur la cheville la crotte des emojis marrons. Je me dis, mais comment on peut se faire ça? C'est ce que vous avez vu de pire, Marty?
Voilà, alors honnêtement, Non, c'est pas ce que j'ai vu de pire.
Ah bon, qu'avez-vous vu de pire?
Ah, je peux pas le dire.
Pourquoi vous pouvez pas le dire?
Bah, secret professionnel.
Bah non, mais c'est une émission, c'est public.
Non, dans l'émission, c'est pas. On a vu. Moi, je me rappellerai toujours de la. C'était dans la première saison. Je pense que Cécile aussi. Hein, c'était un client qui avait un. Bah, un zizi.
Ouais.
Je pense que c'est un peu plus explicite. Ah, je crois me rappeler que c'était l'arrière du mollet parce que c'est moi qui l'avais tatoué. C'était assez marrant. Ouais, c'est... Bah après, dans notre carrière de tatoueur, ça fait 12 ans que je tatoue, on en a vu. Hein. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer à la télé. Quoi.
Est-ce qu'il y a un profil type des clients tatoués ou pas du tout, Cécile?
Non, il y a vraiment de tout. Hein. On pourrait croire comme ça, mais non, il y a de tout. Parce qu'il y a en effet des personnes qui se tatouent elles-mêmes en soirée, un peu trop éméchées. Il y a des cas de sup qui viennent parce qu'ils ont un jour voulu faire un tatouage avec leur pote et il a été foiré. Des gens très romantiques et qui viennent parce qu'ils ont tatoué le nom de leur ex et ça ne va plus du tout. Il y a vraiment de tout, en fait. Il y a vraiment de gens de tout milieu qui débarquent dans le shop.
Alors, on va prendre un cas particulier. Elle s'appelle Angélique, elle est un peu forte, elle est complexée par son poids. Et un jour, erreur de jeunesse, avec des amis, l'alcool aidant, elle décide de se faire un tatouage sur un coup de tête. Elle tenait à cet instant-là, dans ses mains, un magazine télé. Et ceci explique cela.
J'avais quelques idées, mais pas vraiment précises, en fait. J'étais en train de feuilleter un magazine télé, bêtement. Et je dis, pourquoi pas ce tatouage-là?
Le programme télé, c'est pas la meilleure source d'inspiration pour un modèle tatoué. Je me demande bien ce qu'elle a pu faire. Alors j'imagine le pire.
On a quoi? On a le portrait de Michel Drucker sur l'épaule. On fait tourner les serviettes de Patrick Sébastien, Louis la Brocante. Qu'est-ce qu'elle s'est tatouée?
Alors Marty, on a reconnu votre voix. La réponse, qu'est-ce qu'elle s'est tatouée?
Alors ça ressemblait à une espèce de grosse vache, gros taureau. C'était spécial.
Comme dit Diego, on dirait une vache avec des coucouilles.
Ouais, voilà.
Donc, j'explique.
C'est pas son horoscope qui s'est tatoué?
Exactement, c'est ça qui était complètement dingue. C'est que ça n'a aucun rapport avec un animateur ou une animatrice. Je salue Michel Drucker qui nous écoute. C'est qu'elle regardait dans la page télé l'horoscope. L'horoscope, elle est taureau, lui disait il faut foncer. Elle se dit, je fonce, je vais me faire un taureau. Au passage, un conseil, ne faites jamais de tatouage quand vous êtes ivre.
C'est mieux, c'est mieux.
Ouais, moi, je suis taureau, hein, et je ne me suis jamais fait tatouer un taureau quand même.
Vous n'avez peut-être jamais bu assez. Et je reviens, parce que ça continue l'histoire d'Angélique, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'elle est emblématique. Le plus impressionnant, c'est quand elle découvre son nouveau tatouage. On voit un énorme visage de femme, parce qu'il a été recouvert, c'est le but de l'émission. C'est désormais un énorme visage de femme avec des arabesques, des plantes, des fleurs, des feuilles. C'est très spectaculaire. Elle voit Angélique ce tatouage multicolore et elle fond en larmes.
C'est super. Je sais pas quoi dire, Karina. C'est génial. Franchement, c'est t'as participé à au moins 200% de mon mariage. Comme ça. Tu redonnes un sens à ma vie, limite. C'est génial.
Mais redonner un sens à la vie, est-ce que le mot n'est pas trop fort ou est-ce que ça va jusqu'à ce point, Marty, de votre expérience de tatoueur?
Alors, moi je pense pas que ce soit trop fort parce que dès lors que c'est sur la peau, c'est dans son corps, donc c'est un vrai handicap. Un tatou raté, c'est très grave et je pense qu'on... On ne devrait pas minimiser l'impact psychologique que ça peut avoir sur elle, donc je comprends quand il craque, quoi.
Ouais, vous êtes d'accord avec ça, ouais. Cécile Jouga, j'imagine.
Mais non, mais complètement. On a vraiment vu des gens métamorphoser en partant du shop parce que on les a soulagés, quoi. Parce que c'est un vrai calvaire, c'est un fardeau hein, d'avoir un tatou qu'on n'aime pas, même pas forcément raté, mais un tatou qui ne nous correspond plus ou qui nous rappelle des mauvais souvenirs. C'est ça aussi, ça peut parfois rappeler des périodes douloureuses.
Exactement.
Et donc, on a vraiment vu des gens repartir avec le sourire. Ils nous remercient mille fois, ils nous écrivent des mails après et ils sont hyper contents.
Oh, tiens.
La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit encore énormément de demandes pour participer à l'émission, parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce genre de cas et qui souffrent, en fait.
Je vous demanderai s'il y aura une saison 4, et je dois dire que les histoires vont encore plus loin que ce qu'on vient d'entendre, que le cas d'Angélique. On en parle juste après ça avec Cécile Jouga et le tatoueur Marty. Ça s'appelle Tattoo Cover, et nous, on s'appelle Culture Média. Tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ces grosses guitares bien graisseuses, c'est le générique de Tattoo Cover, Le fil rouge, c'est Cécile Djouga dont on entend la voix et c'est Marty, l'un des tatoueurs de l'émission.
Hello.
Le but du jeu, c'est de masquer et de couvrir des tatouages qui font honte, qui font souffrir les gens qui les ont. Il y a des histoires vraiment tragiques. Exemple, une jeune fille qui vient pour recouvrir un tatouage dans un endroit assez intime. Elle s'appelle Célia, elle raconte son histoire.
J'étais avec quelqu'un du coup qui, pour lui, du fait que je sois coiffeuse et qu'en même temps je coiffe les hommes et que dans mon entourage, la majorité de mes amis sont des hommes.
Il était jaloux.
Voilà. Du coup, derrière, ça générait aussi une complication dans mon métier. Au bout d'un moment, il m'a demandé même d'arrêter de coiffer les hommes. Moi, je suis passionnée de mon métier, donc c'est pas normal.
C'est vrai que c'est épuisant, hein, les gens comme ça, les gens jaloux, c'est du délire.
C'est comme si ma femme me disait, tu peux pas tatouer des femmes. C'est quoi ce délire? C'est dingue.
Je me suis demandé ce que je pouvais bien faire pour qu'il ait confiance. Je me suis dit, tiens, il est pas là pendant un week-end, donc je vais faire ce tatouage.
Alors là, on sent que le type n'est pas tout à fait normal, mais il faut décrire le tatouage. D'abord, la localisation, il se trouve en haut de l'arrêt des fesses, juste à l'entrée. Et il y a le prénom Julien, entouré dans un cœur. Il faut raconter la réaction du garçon une fois qu'il a vu le tatouage sur les fesses de sa petite amie. Ça ne l'a pas du tout apaisé.
Non, ça ne l'a pas du tout apaisé. Il l'a même quitté suite à ça. Donc, voilà,
je ris, mais je ne devrais pas.
Ouais, mais la pauvre, on est vraiment sur quelqu'un de toxique.
Ouais. Et attendez, humiliation supplémentaire, il s'est ensuite vanté devant ses potes qu'elle se soit fait tatouer son prénom à lui. Mais si elle vient vous voir, Célia, Cécile Djouga, c'est parce qu'elle a eu une nouvelle histoire. Et quand elle est avec son nouveau copain, c'est pas facile.
Bah non, parce que dans l'intimité, c'est quand même compliqué d'avoir le prénom de quelqu'un d'autre au-dessus des fesses, quoi.
Exactement.
Donc après, en fait, ça lui pourrit la vie, pour pas dire autre chose, quoi.
On a bien compris. D'où un nouveau tatouage qui masque et qui laisse à penser qu'il n'y avait rien à cet endroit-là. C'est assez complexe à expliquer, vous verrez. Vous gardez le contact avec elle et avec les autres. Est-ce que les gens vont mieux après? Est-ce que les gens de la saison 1 et de la saison 2, vous les avez parfois au téléphone ou vous les croisez, Marty et puis Cécile après?
Ouais, exactement. Sur les réseaux, ils nous envoient des mails et sur les réseaux aussi, on garde vraiment un contact parce que voilà, ça c'est très important. C'est pas du faux, cette émission. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport avec les clients et quelque chose de vraiment intense et il y a du suivi après.
Du faux, ils payent? Ou est-ce que c'est offert par la production?
Non, ils ne payent pas, mais j'aimerais pas être à leur place parce que le travail qu'ils font, c'est compliqué la télé. Hein. C'est fatigant, c'est...
Ça fait mal.
Il y a des longues journées, quoi.
Ouais, il y en a qui partent parfois parce qu'ils ont trop mal. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir mal au point de vouloir partir.
C'est compliqué.
Non, est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Oui, il y en avait une qui avait craqué pendant la première saison. Je pense qu'il y avait l'accumulation du stress de la télé tout autour quand c'est la première fois. Un tatou, ça fait mal, on ne va pas se mentir.
Ouais.
Mais après, c'est plus un état d'esprit. Moi, je sais que je conditionne beaucoup mes clients, je leur parle, c'est beaucoup de la méditation. C'est pas insupportable, sinon il n'y aurait pas autant de monde qui en a. Quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des modes dans le tatouage? Je vais vous dire le sens de ma question. C'est un tatouage, théoriquement, c'est fait pour durer et une mode, c'est fait pour ne pas durer.
Exactement, et c'est pour ça qu'on en recouvre, notamment. Il y a des modes, il y a des gens qui font des tatouages un peu esthétiquement juste pour la mode, qui n'ont pas vraiment d'idée, qui vont voir un catalogue ou un tatouage sur Internet et dire « je veux celui-là ».
Vous qui connaissez bien le métier, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que dans 2 ans ou dans 10 ans, ça sera ringard?
Ah, c'est compliqué. Ça,
c'est si vous voulez
répondre. Faire ce qu'on aime surtout.
Oui. Ouais, voilà.
Si ensuite, c'est plus à la mode, les tatouages tribaux, c'est plus à la mode du tout.
Alors, ce qui est plus simple, je vais plutôt dire ce qui est plus simple à faire, c'est d'aller plus dans des créations personnalisées, des créations artistiques qui représentent vraiment ce qu'on aime. Et c'est un peu intemporel tout ça. Ouais. Voilà, quand on fait un dessin, c'est plus intemporel.
Et puis, il y a des cas extrêmes, je vais le dire. Il y a une jeune fille noire, je le précise, parce que le travail d'évitement est encore plus difficile sur une peau noire. Un tatoueur lui a improvisé ce dessin énorme sur le bras. Il y avait sa tête à elle.
Ah oui.
Mais en train de fumer un pétard, il lui a fait des seins énormes avec un t-shirt et une énorme feuille de cannabis sur le t-shirt. Elle peut plus se mettre en manche courte. Vous verrez dans l'émission comment ça se termine. Cécile Djouga, on commence à vous connaître un peu en France, mais en Belgique, vous êtes vraiment une figure. Et vous avez même fait changer la loi, notamment à cause d'une vidéo que vous avez publiée en novembre 2018 sur votre compte Facebook. Vous étiez présentatrice de la météo sur la RTBF. Et un jour, une dame a écrit pour se plaindre à la chaîne parce que vous étiez, je cite, « trop noire ». Et du coup, elle ne vous voyait pas dans sa télé. D'où votre réaction? Ça commence par un sourire, ça finit par des larmes.
Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire. Voilà, alors je viens de l'apprendre, ça m'a d'abord fait beaucoup rire. Je suis partagée entre plusieurs sentiments parce que là, je crois qu'on commence à toucher le fond quand même. Moi, ça commence à me... Voilà quoi, recevoir des sales négresses rentrant dans mon pays. En fait, c'est pas drôle quoi. On a eu balance ton porc, maintenant on va voir balance ton con, d'accord ? On va balancer les cons, on va balancer les gens qui sont trop fermés d'esprit et qui en blessent d'autres. Donc maintenant, on va arrêter et on va se liguer ensemble. Et les gens qui sont fermés d'esprit, comme ça, on va leur montrer qu'on est dans une Belgique ouverte. Ok, moi je me sens belge, je suis bien dans mon pays. Donc maintenant, on va arrêter de me dire de rentrer dans mon pays parce que je suis dans mon pays, d'accord ?
Pardon de vous dire ça, mais ça me serre la gorge de vous entendre. Non seulement Cécile Ndinga, vous avez fait cette vidéo, vous avez porté plainte contre un homme, pas contre cette dame. Audience qui va se tenir le 9 mars prochain. Procès pour quel motif ?
Oui. Procès pour insultes raciales et menaces de mort.
Et je dois dire.
Donc cyberharcèlement, oui.
Cyberharcèlement. Je dois dire quelque chose, c'est que grâce à vous, vous avez fait changer la loi belge et l'histoire du colonialisme, grâce à vous, sera mieux enseignée dans les écoles belges. Marty, un mot d'actualité pour finir. La semaine dernière, UFC Que Choisir a publié des résultats de ses tests en laboratoire sur les composants des encres de tatouage. J'en parle car sur 20 encres de tatouage parmi les plus utilisées en France, seules 5 répondent aux normes en vigueur. La matière. C'est donc 75% des produits testés qui représentent un risque sanitaire élevé. Votre réaction et comment ça se passe dans votre cabinet ?
Eh ben, encore une fois, hein, après je précise que c'est une association de consommateurs et c'est pas une enquête, c'est pas qui a suivi un protocole médical et scientifique. Voilà.
Ah, vous contestez l'enquête ?
Alors, je conteste pas l'enquête parce que je suis pas scientifique. Il y a des gens beaucoup plus légitimes que ça pour parler, notamment le SNAP.
Non, mais l'UFC Que Choisir pour connaître leur travail, je connais pas cette enquête, mais ils s'appuient sur des gens sérieux, des scientifiques sérieux.
Oui, mais les scientifiques, justement, il n'y a jamais eu d'enquête qui disent qu'il y a un contact et un rapport entre encre et cancer, quoi. Donc, nous, en tant que tatoueurs professionnels, on se fournit chez des fournisseurs français qui respectent la norme européenne. Tout est tracé, ils sont constamment contrôlés par les ARS. Donc moi, j'ai une confiance totale et je tiens à préciser que si jamais il y a une enquête scientifique, médicale, qui disent qu'il y a un problème, on sera les premiers à respecter les changements.
L'ARS,
pour l'instant, c'est pas le cas.
L'autorité médicale. Merci beaucoup, Marty, de Tattoo
Merci
Cover.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà. Et on reprend notre ampli bien, bien, bien saturé. Merci, Cécile
et
Ndinga.
Et à ce soir,
à
sur
ce soir, sur TFX, avec des tatouages et pas forcément de crotte. Culture Média, ça continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire très accessible sur le Conseil européen. Et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Alors là, on attend ça. Il s'est consacré à l'émission de Bertrand Attal, le porte-parole du gouvernement sur Twitch. Gabriel, pourquoi je dis Bertrand ? Gabriel Attal. Notre invité à manager les plus grands de téléphone à Serge Gainsbourg, c'est François Ravard qui sera avec nous pour ses mémoires très, très, très rock'n'roll, c'est dans ce livre. Et puis dans les indispensables, 5 films inédits en hommage à la communauté afro-caribéenne de l'Ouest londonien et une analyse surprenante des méchants au cinéma. A tout de suite.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.